Je voudrais peut-être ne pas évoquer les problèmes de méthodologie que fait surgir l'écriture d'une biographie, parce que je suis certain que ça va surgir dans le débat qui suivra. Simplement, je retiendrai dans la belle préface de Jacques Le Goff à son Saint-Louis, cette phrase sur laquelle, à laquelle je souscris pleinement, sans faire de l'historiquement correct. La biographie historique est une des plus difficiles façons de faire l'histoire. Ça a été mon... C'est bien l'expérience que j'ai faite. Mais avant de parler du général Méric et de prendre un fil directeur dans cette biographie, et un seul, je voudrais simplement dire que c'est... Et c'est pas du tout pour me défendre d'avoir fait la biographie d'un officier, mais c'est tout à fait par hasard. Ce sont les circonstances qui m'ont amené à Méric, et pas un choix raisonné, si vous voulez, découlant d'une connaissance de l'histoire du Maghreb, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de l'histoire du Maroc ici. C'est tout simplement parce que en l'an 2000, à la sortie d'un colloque, où, je passe sur ce colloque, et je mets ma montre à l'heure, une chercheuse aux séries, Nicole Grimaud, que certains d'entre vous connaissent, et qui est une spécialiste de la diplomatie dans le Maroc, mais en particulier l'Algérie, m'avait dit: vous devriez faire la connaissance de la fille du général Méric. Alors là, j'ai noué une relation, je crois pouvoir dire, d'amitié avec Béatrice Méric, qui est morte en 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus. Et cette fille du général Méric m'avait beaucoup parlé de son père. Elle voulait que je serve d'intermédiaire entre un centre d'archives et les cartons, les valises, les cantines plutôt, où gisaient de manière abyssale les archives de son père. Et puis, je lui avais proposé, comme lieu de localisation de ces archives, l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et puis, elle avait du mal à se dessaisir des archives de son père. Je ne rentre pas dans le roman familial des enfants de Méric, parce que, d'abord, je ne suis pas psychanalyste, et puis ensuite, c'est pas ce qui est le plus intéressant dans la biographie du général, bien entendu. Mais il a fallu que j'attende sa disparition et que son frère, Christian, prenne le relais. Et c'est lui qui m'a ouvert ces fameuses cantines. Et évidemment, j'ai eu un choc, parce que Méric était un homme qui tenait au plus près ses archives, avait un agenda. Il n'y a pas tous les agendas. Vous pensez bien qu'il n'est pas son agenda pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il changeait presque de jour en jour, par moment, de lieu de campement, de bivouac. Mais pour certaines années clés, il y a un agenda. Et puis, bien entendu, j'ai confronté les archives d'Édouard Méric avec les archives du diplomatique, que je connaissais un petit peu, et puis à Paris, bien sûr, et puis pas à Nantes, et puis les archives du service historique de l'armée de terre à Vincennes. Et je me suis donc lancé dans l'écriture de cet ouvrage, et je l'introduis maintenant en disant que mon propos n'était pas d'écrire une histoire intégrale, une histoire globale, comme vous voudrez, de cet homme, avec le risque de sombrer dans un assemblage de lieux communs, parce que quand on parle d'un officier des affaires indigènes, puis d'un général, il y a tous les archétypes qui surgissent pour silhouetter ce type de militaire. Mais mon objectif, après avoir fouillé ces archives, après avoir pris un bain d'immersion dans les archives et dans les papiers d'Edouard Méric, ça a été d'essayer de tenir deux fils directeurs. Le premier, je n'en parlerai pas, mais évidemment, il m'a beaucoup intéressé, c'était de tenir ensemble les deux personnages entre lesquels Méric a oscillé, non sans tension, non sans distorsion, non sans contradiction, bien sûr, comme pour tout être humain, cela va de soi. Les deux personnages, le guerrier et l'homme de guerre, si vous préférez, et l'intellectuel témoin de son époque. Le guerrier, c'est un homme intrépide au feu, en citation à l'ordre de l'armée, c'est fort rare, compagnon de la libération, au feu, après le combat d'Aubagne qui était la clé de résistance pour pénétrer à Marseille, avec son tabord, le premier tabord du 2e GTM, du 2e groupement de tabord marocain. L'homme de guerre toujours, donc un homme intrépide, un homme qui avait une légende dans l'armée à cause de son courage physique. L'un de ceux qui l'ont le mieux connu, qui disait « Méric est le seul homme que je n'ai jamais vu avoir peur au feu pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Donc un guerrier avec une légende de bravoure très répandue dans l'armée, qui est quand même l'univers où on peut mieux juger les gens sur ce critère-là. Un précurseur de la contre-guérilla en Cochinchine, j'en dirai quelques mots. Voilà pour l'homme de guerre. Mais l'écrivain en herbe, parce que c'est un homme qui aurait souhaité être édité et qui visiblement n'y est pas parvenu, mais je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense que son journal de Tunisie, avec un glossaire, avec toutes sortes d'indications en marge, était destiné à une publication, journal de 54-55. C'était un homme qui rédigeait beaucoup. Le journal de marche du 2e groupement de tabord marocain, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un journal intime en Indochine avec des éclaboussures de subjectivité qui sont très, très douloureuses, peut-être que je dirais pourquoi, un journal en Tunisie et un rapport très approfondi de son passage au Maroc en qualité de dernier directeur de l'intérieur en 1955-1956. Et puis une correspondance à une myriade d'interlocuteurs qui peuvent aller de la princesse de ligne, donc d'une femme du monde, à un Mokaddem El Awal, un sergent, si vous voulez, dans les tabords, ou à son ordonnance, un légionnaire allemand en Indochine. Donc des gens de toutes conditions, des gens de toutes sortes, et on sentait qu'il aimait écrire parce qu'il gardait toujours un double de sa correspondance, un peu maniaque, si vous voulez. Et puis, un intellectuel, incontestablement, un intellectuel en uniforme, comme tant d'autres, au sein de la sphère des affaires indigènes. Je pense ici au général Rondeau, je pense qui a enseigné assez longtemps à l'Institut d'études politiques à Lyon l'histoire du monde arabe, et qui était un grand spécialiste du monde kurde aussi. Je pense au colonel Schoen, le dernier directeur des affaires musulmanes en Algérie, qui est un homme tout à fait remarquable, qui, dès 1942, avait protesté contre l'emploi de la torture par la police vichiste vis-à-vis des militants du MTLD, et avait dit « Nous sommes en 1942, avec ces méthodes-là, nous perdrons l'Algérie française ». Donc vous voyez, des hommes quand même, Rondeau aussi, qui étaient lucides, qui étaient clairvoyants, et qui, pour Méric, ont pris des risques dont je reparlerai après. Le risque de casser leur carrière. Un intellectuel, donc producteur de savoir, quatre rapports au CHEM, au Centre des Hautes Études, au Centre des Hautes Études d'Administration Musulmane, fondé en 1935 par Robert Montagne, et où passaient, si vous voulez, les administrateurs coloniaux qui. C'était une sorte d'université ou de formation permanente, si vous voulez, ou d'université d'été, si j'ose dire, pour. Tout ce qui était administrateur colonial à l'époque et qui voulait tâter de la chose intellectuelle, ne pas rester dans son coin isolé. C'est le deuxième fil directeur, par contre, que je vais essayer de dérouler ici, et qui est plutôt une question. La question suivante étant de savoir comment un officier qui a été formé dans le sérail des affaires indigènes au Maroc, qui était trentenaire au moment de l'exposition coloniale, en 1931, Méric était né en 1901, qui a été officier d'ordonnance du maréchal Lyautey, à Toray, pas encore Lyautey, et à Paris en 1933-1934, qui a été longtemps ce qu'on pourrait appeler un praticien indigénophile de la colonisation, à la manière Lyautey en particulier. Comment cet homme-là, né dans le sérail des affaires indigènes, dans le bain colonial, s'est transformé, évidemment progressivement, ça n'a pas été un basculement, il n'y a pas eu de rupture, c'est des glissements successifs, et qui sont passionnants à essayer de détecter dans sa correspondance ou dans ses écrits professionnels, comment il s'est mué progressivement en observateur inquiet de la fin des empires coloniaux, bien sûr, et en agent résolu, combatif, enthousiaste, c'est évidemment le point sur lequel je m'attarderai le plus longtemps, de la décolonisation en Tunisie et au Maroc entre 1954 et 1956. Alors, je vais inévitablement, pour essayer de tirer ce deuxième fil, faire un exposé en deux parties. La première partie, quand même, les grandes étapes, ou si vous voulez, les lignes de fait du parcours de Méric dans l'armée, pour ne pas parler quand même dans le vide, et puis la deuxième partie, qui consistera à voir comment il enjambe à un moment, il finit par enjamber à un moment, c'est en Tunisie, à l'automne 1954, la frontière coloniale. Je ne dis pas qu'il est passé de l'autre côté, mais comment il a compris le drame des élites colonisées, parce que c'est un homme qui parlait et agissait en direction des élites, c'est-à-dire des nationalistes, et comment, à partir d'un certain moment, il est en porte-à-faux par rapport à l'armée, sinon par rapport à Paris, quand Paris, c'est du moins Pierre Mendès-France ou André Savary, ou... Savary, c'est Alain. Alain Savary, merci. Mais un autre Paris, celui de la rue Saint-Dominique, de l'état-major, du quartier général de l'armée, ou de la diplomatie dans ses aspects les plus obsolètes et les plus conservateurs. Bien sûr, de la classe politique dans sa grande majorité. Alors, je vais quand même très rapidement sur les étapes de son existence. Il entre à Saint-Cyr en 1921. Il est un pur produit de l'endogamie professionnelle, puisqu'il est fils de général. Il est jeune sous-lieutenant dans les troupes qui occupent la Rhénanie, à Trèves, dans un régiment de chasseurs à pied. Il demande à partir dans le Rif en 1926, parce que c'est le seul théâtre où la France fait la guerre, donc il veut faire la guerre, il veut aller faire la guerre. C'est un fonceur, c'est un bagarreur. Il est conquis par le Maroc, il suit le cours de préparation aux affaires indigènes à Rabat en 1927-1928, il n'est pas très bien classé, sa meilleure note est en équitation, et sa plus mauvaise note est en droit. À Rabat, il rencontre, je passe parce que c'est très romanesque et vous allez m'accuser de faire du cinéma, il rencontre la fille d'une grande famille d'armateurs et de banquiers, la famille Georges Picot. Il rencontre Marie-Madeleine Georges Picot, qui, après leur divorce, en 1946, s'appellera Madeleine Fourcade. Elle a un nom dans le quartier de Confluence, bien qu'elle n'ait rien de lyonnais. C'est la seule femme qui dirigeait un grand réseau de résistance, 3000 personnes. Méric a été fait compagnon de la libération, pas Madeleine Fourcade. Je renvoie là, évidemment, à la disproportion entre les hommes et les femmes de la 3e à la 5e République jusqu'aux années 70. Disons grosso modo jusqu'à Françoise Giroud, secrétaire d'État de Giscard d'Estaing, pour épingler une date qui a eu à l'époque une forte résonance symbolique. Et puis bien sûr Simone Veil. Donc il se marie, il va avoir deux enfants, Christian en 1929, qui vient de mourir, et Béatrice en 1932. Il commande un goum, c'est-à-dire une formation de supplétif, pour faire bref, d'abord dans la haute vallée de l'Huera, à l'aplomb du Rif, de la zone espagnole, puis ensuite au revers sud du Haut Atlas, à Alcalá de Mguna, pardon. Peu importe ces étapes, nous sommes au début des années 30. Il devient officier d'ordonnance de Lyautey. Il le reste seulement 8 mois parce qu'il tire, et heureusement il ne fait que blesser, pas trop gravement, il tire sur l'amant de sa femme parce que Madeleine n'a pas supporté la vie dans un poste dans le sud marocain. Elle est rentrée à Paris et elle est devenue journaliste et féministe. Et elle avait une vie, si vous voulez, je ne sais pas, c'était pas une vie d'héroïne de Chardonne, pour rester dans le roman de l'entre-deux-guerres, mais d'un personnage celui qui faisait l'éloge de la vitesse, qui était un ambassadeur vichyste.
Paul Morand,
merci. Et donc vous voyez, femme de la haute bourgeoisie, très libre, et conduisant sa barque toute seule, ça donnera le réseau Alliance, évidemment, vichysto-résistant, puis ensuite très proche des Anglais, donc assez éloigné de la France libre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour se faire oublier après un séjour à la santé, et grâce à la protection de l'IOT dont il sort au bout de 2 mois seulement, sans jugement, il n'y a rien dans son livret militaire, ça c'est un aspect qui a été évidemment gommé. Il part dans le sud-ouest du Maroc, dans les confins entre l'anti-Atlas et le Sahara occidental, et là il commande plusieurs postes, je ne rentre pas dans les détails. Il termine, lorsque la guerre éclate, comme chef du cercle de Goulimine, qui était un port saharien à l'époque du commerce transsaharien à dos de chameau. Je crois que c'est important. Alors là, ce n'est pas anecdotique, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il apprend le Maroc par les nomades, comme ses compagnons, Boulan Mareuil, Diego Brosset, un très grand nom de la France libre, Diego Brosset, et un personnage très romanesque qui était officier méhariste en Mauritanie, dans le sud du Maroc, et qui est mort à la tête de la 2e division marocaine. C'est un des rares généraux qui se soit fait tuer au feu. Il était toujours devant. Toujours, toujours, toujours. Un type assez extraordinaire, sur lequel Vercors a rassemblé ses écrits carnet mauritanien sous le titre « Un homme sans l'Occident ». Et la préface de Vercors est magnifique. Vraiment magnifique. Quand on lit cette préface, on se sent, en tant qu'universitaire, ça vous apprend la modestie. Et donc, je reviens à mon propos, c'est important parce qu'il apprend le Maroc par le sud. La Hassaniya, l'arabe pur, l'arabe bédouin, si vous voulez. La manière d'être des Maures, comme on disait à l'époque, on dirait aujourd'hui des Sahraouis. Et des hommes pour qui le Maroc, c'est pas... Est-ce que c'est leur pays? En tous les cas, c'est l'autre. C'est leur arbre, disent-ils. Ils disent pas le Nord, ils disent leur arbre. Je sais pas pourquoi. Et pendant longtemps, Méric aura épousé les préjugés des chameliers, des nomades guerriers, vis-à-vis des hommes du Nord, vis-à-vis de la bourgeoisie marchande de Fès, d'où s'échappent les premiers cercles nationalistes, ou de Salé. Donc vous voyez, ça le met en porte-à-faux par rapport au Maroc qui, à l'époque, est en train d'échapper à la tutelle du protectorat et par le biais des élites dans les vieilles villes, c'est la même chose en Algérie, on voit les travaux de Omar Carlier par exemple, infuse le nationalisme. Donc vous voyez le grand écart, il aurait été au nord du Haut-Atlas, sans doute qu'il aurait plus vite... il serait plus vite entré en sympathie, il aurait été moins longtemps réticent, voire réfractaire à cette bourgeoisie marchande et dont les enfants deviennent nationalistes. En 1942, il est stagiaire au CHAM, au Centre des hautes études d'administration musulmane fondé par Robert Montagne qui s'est replié sur Alger. En fait, il appartient à un réseau de résistance, mais giraudiste et pas gaulliste, qui au Maroc avait été fondé par le général Bétoir. Et à Alger, il est un des mécanos de la conjuration des civils et des militaires qui arrête le général Juin, qui commande les forces d'Afrique du Nord, et qui permet aux Américains de débarquer sans aucun mort, alors qu'à Oran et surtout au Maroc, il y aura des centaines et des centaines de gens qui seront tués parce que les officiers vichistes ordonneront de tirer sur les Américains. Donc, coup d'éclat. 48 heures en prison, il aurait pu être fusillé. Il a certainement rencontré José Aboulker. Et là, j'ai pas eu de chance parce que j'ai connu des tas de gens. Et José Aboulker, je crois pouvoir dire que c'était vraiment devenu un ami. J'ai connu des tas de gens qui auraient pu me parler de Méric. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à Méric, il y a 4 ans, ils étaient morts. Et là aussi, vous voyez, les circonstances jouent un rôle très important ici dans l'élaboration de cette biographie. José Abulker, qui était vraiment la pièce centrale de cette conjuration. Il est girondiste, sans doute qu'il a gardé des liens, mais je n'ai pas pu les mettre en exergue, avec Madeleine encore Méry, qui va encore Fourcade, qui est à Vichy, puis ensuite qui disparaît dans la clandestinité et qui termine à Londres. Il est girondiste, c'est-à-dire qu'il combat les Boches, pas le nazisme. Il n'a pas compris ce que c'est que le nazisme. C'est un de ses premiers points aveugles, et il y en a bien d'autres, bien sûr. Et il ne s'agit pas de porter le jugement. Il est un officier, comme Delanne de Tassigny, comme tant d'autres, qui fait la guerre aux Allemands. C'est la guerre de 14-18 qui continue. C'est un patriote, mais la dimension idéologique qui est impliquée dans le terme de antinazisme lui est complètement absente dans si vous voulez, son attitude de résistance, de lutte contre les Allemands. Donc il a été un des facilitateurs du débarquement des Américains à Alger. Il a eu beaucoup de contacts avec des gens du réseau de Murphy, qui gardera après 1945. Giraud le prend comme second, il est à ce moment-là capitaine, dans son état-major. En fait, il demande à rejoindre les gens qui se battent. Il rejoint le deuxième groupe de tabord marocain, fin 1942. Il participe, je vais très vite, aux campagnes de Tunisie, de Corse et de Colobrière dans les Maures jusqu'au Danube. Ils avaient atteint à peu près le Danube lorsque l'armistice les surprend le 8 mai, après un très long séjour, très meurtrier, du mois de septembre au mois de février, dans les Vosges, où pendant 5 mois, la deuxième armée française, s'enlise, trébuche contre la résistance acharnée des Allemands. Juste une anecdote, je suis allé à Téguim, entre Bastia et Saint-Florent, voir là un combat où s'est illustré le premier tabord marocain. Il y a la liste des Goumiers, ils sont une quarantaine, des Goumiers et des sous-officiers français qui sont tombés. Et juste à côté de cette liste, c'était marqué US Go Islam, No Islam en France. Vous voyez, en franglais. La honte de voir une inscription comme ça. C'était il y a 9 ans. J'espère qu'elle a été effacée. J'aurais dû écrire au préfet, mais s'il fallait écrire au préfet chaque fois qu'on voit des choses qui vous scandalisent, on serait en écriture permanente. Après la guerre, je vais très vite, il fait un séjour d'un peu plus de 2 ans en Cochinchine, c'est le mot de l'époque pour désigner le sud du Vietnam actuel, de fin 1946 à l'été 1948. Là, il est successivement chef du 3e régiment d'infanterie, du 3e régiment étranger, je suis dyslexique, d'infanterie, donc je mélange tout le temps les pinceaux. C'était le régiment, avec le premier régiment d'infanterie de marine, le plus décoré de l'époque. Donc si vous voulez, si Méric prend en main ce régiment, c'est parce qu'on considère qu'il est, c'est un peu un cliché, j'en suis tout à fait conscient, qu'il est un baroudeur. Ensuite, il devient chef d'état-major du général Boyer de la Tour, qui va jouer un grand rôle dans son existence à Saïgon. Et enfin, il commande la zone Est en Cochinchine, c'est la zone du caoutchouc, Michelin et compagnie, de l'EVA. Il fera un retour à Hanoï, fin 1949, début 1950, mais il sera, comment dire, éclipsé par l'arrivée de Delattre. Delattre arrive avec ses équipes, et Méric doit repartir, parce que Delattre et Méric, le courant ne passait absolument pas. Entre-temps, en 1949, il commande la subdivision de Tiznit. Il est colonel depuis 1947. Puis, le cours de préparation aux affaires indigènes à Rabat, en 1951. Puis, il fait un stage d'un an à l'Institut des hautes études de la Défense nationale, qui avait été créé par le Front populaire pour... C'est une sorte d'alter école de guerre, si vous voulez, pour justement décrasser l'école de guerre qui était coincée dans ces schémas de 14-18. C'était une initiative du gouvernement de Léon Blum. Et puis, en 1953, c'est une punition parce qu'il a été mal noté. Il ne s'entendait jamais avec les officiers d'état-major. il est envoyé dans la subdivision militaire de Délis, comme on disait à l'époque en petite Kabylie, et le ressent comme une punition parce que là, il est, si vous voulez, institutionnellement, l'alter ego d'un sous-préfet. Alors pour un homme qui a eu la vie qu'il a menée, se retrouver avec un sous-préfet à képi de la préfecture, c'est vraiment quelque chose d'insupportable pour lui. Voilà aussi encore un trait, évidemment, de sa culture professionnelle de militaire. Il a peu de considération pour les civils. Alors, j'arrive à l'essentiel. D'août 1954 à août 1955, il est promu secrétaire général aux affaires politiques à Tunis, sous l'égide du dernier résident général en Tunisie qui s'appelait Boyer de la Tour. Boyer de la Tour, c'est un officier qui s'était marié avec une Marocaine, une Haït Serouchnia, de la région au nord, entre Taza et Fès, dans la montagne, qui est morte de la tuberculose. Donc il y avait une légende au Maroc, on l'appelait Moha la Tour, parce qu'il était, c'était une région berbère. Et par conséquent, c'est un homme au départ qui est typiquement l'officier, le prototype de l'officier indigénophile, mais qui va peu à peu virer sa cutie, comme on disait à l'époque, et rallier le clan des ultra-coloniaux. Mais en 1955, c'est pas encore joué. Donc il est secrétaire des affaires politiques. Il a pour alter ego, excusez-moi, ça fait la deuxième fois que je parle latin, il a pour personnage symétrique Roger Sédou, qui est l'œil de la diplomatie sur Tunis à la fin du protectorat. Sédou qui fera ensuite une grande carrière d'ambassadeur, en particulier à Tunis, à l'époque du premier Bourguiba, et puis à Rabat, et ensuite à Londres, Washington, etc. Donc c'est pas n'importe qui, c'est nous. Et il y a une sorte de rivalité mimétique entre les deux hommes. Ce que l'un a, l'autre ne l'a pas, et il y a une comptabilité de ce que l'un a et l'autre pas. Enfin, là on rentre dans un univers un peu proustien, vous voyez, enfin, ça devient très romanesque et très subtil, dans son journal du moins. Ensuite, il est nommé dernier directeur des affaires politiques à Rabat de septembre 1955 à mai 1956. Ce que j'ai oublié de dire, excusez-moi, c'est qu'en Tunisie, je vais quand même dire ce qu'il a fait très très brièvement, en Tunisie, il est simultanément le wasit, le go-between, le médiateur, l'intermédiaire, tout ce que vous voudrez, entre la résidence, Paris et les nationalistes, et Tunis au sens tunisien du terme. Entre la résidence, avec ce Boyer de la Tour qui est nommé par Pierre Mendès France après les accords de Carthage, et donc qui est considéré comme un général entre guillemets libéral, et puis qui va trahir Mendès France, qui va passer de l'autre côté. Paris, alors Pierre Mendès France, puis Edgar Faure, et Méric est très proche d'eux, surtout de Mendès France. Et puis la diplomatie, avec au Quai d'Orsay Jean Bazdevaux, qui est un homme qui a joué un grand rôle dans l'Association pour l'avancement des études islamiques dans les années 60-70. Et puis l'Express aussi, parce que par la famille Georges Picot, du côté de Madeleine maintenant Fourcade, Méric avait gardé des liens avec une de ses nièces, enfin une nièce de Madeleine, Léone Georges Picot, qui va devenir Léone Nora. Alors Léone Nora, c'était la femme de Simon Nora, le plan informatique, le conseiller de Chaban-Delmas. Là, vous voyez, on est vraiment dans les hautes sphères décisionnelles d'un milieu étroit parisien. Donc il a l'oreille de pas mal de gens à Paris, il est connu à l'époque. Il dîne avec Servan Schreiber, François Giroud, il y a une interview sous couvert d'anonymat avec Jean Daniel, qui est un jeune journaliste à l'époque de l'Express, etc., etc. Enfin, je ne veux pas tirer tous les fils, mais vous voyez, durant sa période tunisienne, il devient vraiment l'homme indispensable lorsque ça coince. Pour que ça coulisse, pour débloquer, on va voir Méric. Entre le palais Bellical, les nationalistes du Néo-Destour, la résidence générale et Paris, Méric, c'est l'homme indispensable. C'est l'homme qui décoince. Parce que voilà pour la résidence, voilà pour Paris. Et puis Tunis, alors à Tunis, il a un très bon contact avec le palais Bellical. C'est un artiste, Méric, c'est un esthète aussi. Jean Lacouture, dans sa magnifique notice nécrologique dans Le Monde, lorsqu'il est mort, dit la dernière fois que je l'ai vu, il regardait avec un air extasié des étoffes tissées par des femmes de la Haute-Égypte. C'était une exposition à Paris, une exposition certainement charitable par des bonnes sœurs d'Égypte qui faisaient vendre à des gens de bon milieu parisien ces tissus. Mais c'est uniquement pour cette anecdote dans la notice nécrologique, tirer la notice nécrologique de Lacouture. Mais il suffisait de voir son appartement aussi, rue du Bac, pour comprendre que c'est un homme, un collectionneur, pas un dandy, mais un collectionneur et un esthète. Et donc, le palais Bellical, il le voit un petit peu comme Visconti voit l'aristocratie, les derniers feux de l'aristocratie vénitienne ou romaine. Vous voyez, il y a quelque chose de très, très esthétique, de très littéraire dans la manière dont il parle de ces gens, parce qu'il voit que ce vieux monde s'écroule, et en même temps il a une sorte de vénération pour ce vieux monde. Mais il noue un lien très fort avec les néo-destouriens, en témoigne sa correspondance privée avec eux. Mohamed Masmoudi, bien connu, qui sera le premier ambassadeur de Bourguiba à Paris et un de ses ministres des Affaires étrangères, Monghi Slim, un homme fort du régime bourguibien, Taïeb Mehiri, c'est le Fouché de Bourguiba, c'est l'homme des tâches policières de la jeune République tunisienne, Hedi Nouira, qui sera Premier ministre pendant longtemps, dans les années 70. Et puis aussi avec des intellectuels critiques à la fois du protectorat et du néo-destour, comme Ahmed Ben Salah, qui a la cote à Paris à l'époque, il écrit dans la revue Esprit, il a l'oreille des intellectuels progressistes, des milieux anticoloniaux ou anticolonialistes, comme vous voudrez. Et il a des rapports très, très serrés aussi avec Ben Salah. Donc voilà, il est d'abord cela, le go-between entre la résidence, Paris et Tunis. Il est ensuite, si vous voulez, deuxième point, dans ce qu'il est à Tunis, l'opérateur de la reddition des Felagas, comme on disait à l'époque. Des bandes armées, est-ce qu'il faut dire Junoud comme pour l'armée de libération nationale en Algérie, je ne sais pas, ce n'est pas le mot qui est employé, en tous les cas, dans les archives, bien sûr, des maquisards, moi je dirais des hommes de la broussaille, j'emprunte l'expression au grand sociologue du Vietnam, Paul Mus, j'espère que c'est Paul, merci, pour parler des gens du FLN. Le général Boyer de la Tour, fort de son expérience du Maroc, voulait que ces bandes armées se soumettent à la manière classique, traditionnelle, la cérémonie de l'aman, de la remise des armes, le taureau dont on coupe les jarrets, etc. Méric dit à Boyer de la Tour, il n'en est pas question. C'est humiliant, ces gens-là sont des patriotes, ce ne sont pas des révoltés contre le Beylik, ce sont des patriotes qui luttent contre nous. Il faut trouver autre chose, il faut qu'ils rendent les armes au néo-destour. Alors là, il va batailler, parce que le néo-destour, c'est l'ennemi pour Boyer de la Tour et les gens de la résidence. C'est l'ennemi indispensable, si vous voulez, pour trouver une solution, mais c'est quand même l'adversaire, c'est les gens d'en face. Donc il va imposer finalement cette solution avec Masmoudi, ils vont être les deux artisans, ils vont traverser tout le Maroc, toute la Tunisie, excusez-moi du lapsus, en jeep, aller de poste en poste, et les gens remettent les armes, et Méric est là, et ils saluent les gens, et etc. etc. Je veux dire, c'est pas fait depuis Tunis, hein. Ils se déplacent. Il en avale des kilomètres et de la poussière avec Masmoudi. Et bon, on sent qu'il y a une fraternité, non pas d'armes, mais de camaraderie dans cette opération qui est très très forte entre les deux hommes. Donc voilà, là il a joué un rôle tout à fait important. Et puis, son troisième rôle, alors ça c'est dans son journal, ça n'apparaît pas dans les archives, il est l'arbitre des conflits sociaux parce que la Tunisie, à la fin du protectorat, se hérisse de grèves, de mouvements, si vous voulez, qui sont à mi-chemin entre le mouvement social et le mouvement national, sans qu'il soit toujours facile de départager la coloration de l'un et la coloration de l'autre. Et là, moi, ça m'a beaucoup frappé, c'est de voir qu'il va en jeep dans toute la Tunisie. Il rentre quelquefois la nuit en jeep, avec un chauffeur sans armes. Il avait dit non, moi je ne mets pas d'armes, je ne prends pas d'armes. Moi, mon rôle, c'est d'être un arbitre, c'est d'être un pacificateur de tous ces conflits. Et la nuit, tout le monde disait ah non, la Tunisie, les félagas, les bandes de coupeurs de route, le banditisme, il y avait du banditisme aussi, etc. C'est de la folie. Voilà, c'est un petit trait, si vous voulez, pour vous montrer ce qu'il faut quand même bien dire, le côté un peu panache, ou si vous êtes sévère, donc pour lui, don quichotesque du personnage. Alors, au Maroc, en Tunisie, il a réussi. Et il a laissé un très très fort souvenir en Tunisie. Je suis en train d'essayer maintenant d'alerter j'ai l'impression que ça va marcher, les historiens tunisiens sur ses écrits et sur son rôle. Mais comme directeur de l'intérieur au Maroc, ça ne va pas marcher du tout. En Tunisie, ça marchait, mais sauf que, je vais dire une chose importante, il a été menacé de mort. Il recevait des lettres anonymes avec des petits bâtons de dynamite, avec des petits cercueils. Il y a une manifestation contre les conventions qui lancent l'autonomie interne. En Tunisie, les fonctionnaires du protectorat défilent dans la rue, sont surtout des fonctionnaires. Ils crient « Abba Amérique », c'est pas leur seul slogan. Et le consul d'Amérique, il n'y a pas encore d'ambassadeur, qui regarde le défilé, la fenêtre ouverte, croit entendre « Abba l'Amérique », et il referme les portes et les fenêtres précipitamment. Évidemment, c'est quand même un moment plaisant quand on lit des archives de voir cela. Donc, il est menacé de mort. Boyer de la Tour, qui se fâche progressivement avec lui, lui dit avec votre manigue idéale, vous finirez pendu par les nouveaux résistants. Les nouveaux résistants, ce sont les ultras pour Boyer de la Tour. Donc, vous voyez le clash entre les deux personnages. Donc, il est déjà en Tunisie l'homme à abattre. Et c'est pas. C'est le moment où, au Maroc, quelqu'un qui avait pris le parti des nationalistes marocains et du sultan, je dis le sultan parce qu'il est proclamé roi seulement en 1957, Sidi Mohamed Ben Youssef, Jacques le Maigre du Breuil est assassiné. Je veux dire, les tueurs étaient là. Et on ne sait pas toujours très bien quel est le rôle du SDEC là-dedans. Le contre-terrorisme et les services secrets du SDEC semblent. Les archives ne sont pas vraiment ouvertes, mais ce qui filtre déjà montre, et on le savait déjà, quelqu'un comme Charles-André Julien l'avait déjà dit, il y avait des complicités, enfin une sorte de collusion, des collusions. Alors, au Maroc, je ne vais pas développer son rôle, parce que c'est toute l'histoire de la transmission, pièce par pièce, de la direction de l'intérieur au ministère de l'intérieur, qui est élaboré à partir de décembre de 1955. Mais vous avez la photo du bouquin qui circule, illustre bien, je dirais, le climat d'entente, d'intimité, je dirais presque, d'amitié. C'est Méric, dernier directeur de l'intérieur, qui serre la main du caïd Hassan Youssi, qui est le premier directeur le premier ministre de l'intérieur du gouvernement Mbarek Bekaï, le premier gouvernement marocain après l'indépendance. Alors, au Maroc, Méric ne réussit pas, pour des raisons, je n'ai pas le temps de développer ici, mais essentiellement parce qu'en Tunisie, il avait pu s'appuyer sur le néo-destour. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Au Maroc, il y a une lutte pour le pouvoir, tellement acharnée entre le Palais Royal et l'Istiklal, le parti nationaliste de l'Istiklal, avec pour enjeu le contrôle des services de sécurité, donc la direction de l'intérieur, et le contrôle du Jeish Tahrir, l'armée de libération, que la direction de l'intérieur, là-dedans, elle est ballottée et que Méric finit par n'avoir prise plus sur rien du tout. Au Maroc, il y a une sorte de séba, de dissidence, de révolte contre tous les pouvoirs durant l'hiver 1955-56, qui fait que la direction de l'intérieur n'a plus prise sur rien du tout, et que Méric comprend très bien que et l'Istiklal et le sultan soufflent sur les braises, parce que c'est une manière de faire partir les Français beaucoup plus vite, c'est une manière de les délégitimer, mais aussi de les insécuriser, de les faire partir de la montagne et de tout ce qu'on appelait autrefois le Maroc stratégique, c'est-à-dire les confins. Je ne développe pas, je voudrais simplement dire qu'au Maroc, contrairement à la Tunisie, la fronde ne vient pas des fonctionnaires, ne vient pas de la population européenne, la fronde, elle vient de l'armée. Les militaires ne supportent pas les directives de Méric. Il faut dire que Méric, à Tiznit, avait déjà envoyé des circulaires qui, paraît-il, avaient beaucoup fâché le corps des affaires indigènes, parce qu'il avait dit aux officiers des affaires indigènes dans sa circonscription de Tiznit, il avait dit « Dans ce pays, c'est un scandale que vous, les officiers, vous ayez des piscines. Les piscines, c'est l'eau, elle est rare, elle est pour arroser les champs des paysans, des villageois. Votre domesticité, vos voitures de fonction, tout ça c'est fini. Alors, il était très idéaliste. La seule manière de connaître les hommes, c'est d'aller à cheval. Les jeeps, vous en servez que quand vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. La domesticité nombreuse, voyante, c'est humiliant. Vous n'êtes pas des caïdes. Vous devez avoir un train de vie beaucoup plus modeste, etc. etc. Il disait aussi, c'est pas la peine de faire du chiffre pour les écoles. Moi, je sais bien que les Marocains ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Je sais bien que les Marocains qui sont aisés dans la circonscription de Tiznit payent des mesquines, des misakènes, des pauvres, pour remplacer leurs enfants pour aller à l'école. Alors, c'est pas la peine de jouer cette comédie. Laissez les gens fermer les écoles, ou en tous les cas, mettez-les en veilleuse, arrêtez ce cinéma. Enfin, ils ne parlaient pas comme ça, mais vous voyez, ces directives prenaient complètement à contre-pied les officiers, puisque c'était une région d'administration militaire, et déjà, ils s'étaient fait une très mauvaise réputation. Donc, les directives qu'il envoie au poste de contrôleurs civils et des officiers des affaires indigènes ne passent pas. Et ce qui met le feu aux poudres, j'ai terminé la première partie, c'est que Édouard Méric a nommé au dernier cours, au cours de préparation aux affaires indigènes, qui devient maintenant le cours de préparation qui devient une école de caïdal, enfin une école pour devenir caïd, après l'indépendance, il a pris Vincent Monteil, qui vient démissionner. Vincent Monteil, c'était un officier qui rêvait d'être le colonel Lawrence de la France. C'est un homme très, très, très original, un polyglotte, j'ai un petit peu connu. Il faut que je m'arrête, parce que si je mets à parler Vincent Monteil, je vais m'égarer. Mais bon, c'était un peu une provocation, parce qu'il avait démissionné du cabinet de Soustelle pour protester contre le virage de Soustelle qui était passé à l'Algérie française. Donc on savait qui c'était, puis il avait été gaulliste dès 1940, c'était un homme de la France libre. Bon, c'était peut-être pas heureux ce choix, mais quoi qu'il en soit, quand Monteil arrive, tout de suite, il baisse le drapeau français et il hisse à la place le drapeau marocain. Alors, c'est ce qui met le feu aux poudres. Et il y a un colonel qui s'appelle Niox qui écrit, j'ai pas le temps de la lire, mais une lettre d'injure qui circule dans le bulletin de renseignement de la direction de l'intérieur. C'est-à-dire que Méric est trahi par les siens. Tout le monde l'a lu et Méric comprend qu'il n'a prise plus sur rien. Alors, il met Niox aux arrêts. Niox, colonel Niox, n'obéit pas. Méric assiste au dernier défilé des goums. C'est quand même quelque chose pour lui. Il a commandé des goums pendant plus d'une dizaine d'années dans son existence, et a eu je ne sais pas combien de décorations à l'ordre de l'armée à à la tête du premier tabac. Il voit Niox, il le gifle de sa main. Il avait été blessé grièvement deux fois. Une fois à la main, qui était complètement paralysée, impotente, et une deuxième fois dans l'abdomen. Et de sa main valide, il le gifle. Tous les officiers présents lui tournent le dos, une sorte de branca, disent au dernier résident général, qui était un civil, qu'ils n'assisteront pas au lunch qui va suivre, à la réception qui va suivre. Et Dubois, le dernier résident général, dit à Merrick, vous partez. Et il va s'en aller dans un délai de 48 heures après, il est mis dans un avion et il débarque à Paris. Donc vous voyez, au Maroc, ça s'est très très mal passé. Et il va être mis dans un poste fictif à Mayence, en Allemagne, les troupes d'occupation françaises. On lui donne un petit bureau minable, une machine à taper, pas de dactylo, pas de voiture de fonction. Enfin, on le met sur plus que sur une voie de garage, quoi. C'est une punition. Comme le général Paris de la Bollardière, que vous connaissez pour sa protestation contre l'emploi de la torture en Algérie par les parachutistes lors de la bataille d'Alger, comme Paris de la Bollardière, qui, je le rappelle, avait été le patron des parachutistes en Indochine, donc c'était un parachutiste qui s'est opposé à ses collègues parachutistes, qui avaient été ses subordonnés, et qui était un homme de guerre lui aussi, comme Bollardière, à ma connaissance, c'est le seul officier supérieur dont la carrière a été brisée, il n'y a pas d'autre mot, par son attitude. Je ne parle pas des officiers mutins en 61 et de ceux qui ont rejoint l'OS, mais pour avoir, si vous voulez, eu une attitude, une attitude qui allait dans le sens de l'histoire, enfin, tout simplement. Et je vais y revenir dans la deuxième partie, mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que ses amis, Jean Lipkowski, qui est un ambassadeur, un gaulliste de gauche, que De Gaulle connaissait bien, un parachutiste de la France libre, un homme couvert de gloire lui aussi, et d'autres encore, avaient enjoint à De Gaulle de le réhabiliter, et De Gaulle n'a pas cédé. Pourquoi ? Évidemment, je suis absolument incapable de vous le dire, il n'a pas réhabilité non plus Bollardière. Je trouve que c'est quand même une donnée intéressante sur De Gaulle. À mon avis, qui diminue De Gaulle, puisqu'aujourd'hui, il y a un consensus pour en faire... C'est pas du tout... J'ai l'audace de le déboulonner, mais enfin, disons quand même, rabattre un tout petit peu le personnage.